Bonjour, je m'appelle Evan, je suis élève de 3e prépa pro à Jean-le-Barrégoire. Je suis heureux de vous interviewer aujourd'hui afin de découvrir votre profession. Pouvez-vous vous présenter?
Ben, je m'appelle Aurélien, donc je suis menuisier charpentier actuellement et j'habite à La Rochebeaucourt en Dordogne. Voilà, je travaille le bois massif de préférence, et quasiment exclusivement maintenant, et du mieux que je peux, le moins possible avec des machines, le plus avec des outils à main.
Dans quelle ville exercez-vous votre métier?
Alors pour l'instant, j'exerce à Fouquebrune en Charente, mais bientôt je vais avoir un nouvel atelier à La Rochebeaucourt.
Quel est votre statut CDI, CDD, intérim ou autre?
Je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte.
Pouvez-vous nous décrire votre lieu de travail, votre environnement, bureau, extérieur, atelier?
Alors, je vais commencer par le plus simple. Le bureau, c'est chez moi en fait. J'ai pas de lieu dédié puisque j'ai un ordinateur portable, donc je travaille depuis partout quand j'ai besoin de faire des plans ou autre, ou de faire des devis. Et du coup, mon atelier, donc, il est à Fouquebrune. C'est un ancien atelier de menuisier. Donc, j'ai déjà des volumes qui ont été prévus pour recevoir des machines, des longueurs de bois, tout ça. Et donc, pour décrire rapidement, il y a beaucoup de... Si je fais pas le ménage, il y a beaucoup rapidement de la sciure et des copeaux partout. Donc, il faut des aspirateurs que j'ai aussi. Et puis il y a du bois partout, un peu dans tous les sens. Il y en a qui sont rangés, il y en a qui sont debout, il y a des chutes, et puis il y a toutes les machines qui sont disposées sur des postes de travail prêts pour suivre des flux de fabrication.
Avez-vous des collègues?
De temps en temps, j'ai des amis qui viennent m'aider parce que pendant mon parcours, j'ai rencontré plein de gens super, et puis il y en a qui avec qui ça a bien matché. De temps en temps, ils veulent garder un peu le savoir-faire qu'ils ont acquis sur le bois, et ils reviennent à l'atelier me donner un petit coup de main ou fabriquer un truc à eux. Donc de temps en temps, je suis pas toujours tout seul. Ouais.
Pouvez-vous nous décrire une journée type de travail?
Alors, la journée type, il y en a pour moi, il y en a pas. Quand il y a du travail, enfin, on va dire, il y a toujours du travail, mais quand c'est en mode fabrication, c'est vrai que ça peut être, c'est un peu toujours la même chose. Alors, il y a quand même des dizaines d'étapes différentes. Ouais, je parlais du bois massif, par exemple. Et bien, il y a des journées, ça peut être toute la journée, je vais déligner des grands plateaux de bois. Il y a d'autres journées, je vais faire que dégauchir, que raboter, etc. Je fais jamais tout à la suite, à moins que ce soit un petit objet à travailler. Et là, dans la même journée, je vais pouvoir tout faire à la suite. Mais sinon, ça va être quand il y a une étape sur une machine, on fait tout sur la même machine. Mais après, il n'y a pas de journée type, hein, parce que des fois, je vais aller voir un client, des fois, on m'appelle, donc je dois partir. Il me manque quelque chose pour. J'ai plus de colle d'un coup, j'avais pas pensé à la colle, il faut que je reparte en chercher. Il y a mille et une choses qui font qu'en fait, on prévoit des grandes lignes sur nos journées. Il y en a, ça se passe comme c'était prévu, et il y en a, ça se passe pas du tout comme c'est prévu.
Comment choisissez-vous votre bois?
Alors, pour choisir mon bois, j'ai la chance que là où je suis, il y a un énorme stock de plateaux de bois qui est bien sec depuis la tempête 99. Et je le choisis par rapport à ce que j'ai à faire à mes débits, parce que du coup, suite à mes plans, j'ai fait une fiche de débit. Je fais en sorte que ça corresponde. S'il y a des petites taches, des choses qui ne sont pas très jolies, mais que ça ne se voit pas sur le meuble en entier, je vais l'utiliser quand même. Mais toutes les parties visibles, je vais faire en sorte qu'il y ait le moins de. Enfin, que ce soit le plus beau possible au niveau du veinage, de la couleur, de l'harmonie de tous les morceaux. Et j'ai commencé surtout du chêne que j'utilise actuellement, parfois du châtaignier, beaucoup plus rarement du pin. Et quand je fais de la charpente, des fois j'ai pu faire à la main, du coup, donc équarrir, on en reparlera peut-être directement des grumes de bois en forêt, donc là c'est souvent du chêne et du châtaignier. Mais quand j'ai du. Sinon, pour faire de la charpente en général, j'utilise du Douglas qui vient de Syrie.
Et quels sont vos horaires?
Ça aussi, vu que je suis à mon compte, et je fais ce que je veux. Des fois, je vais commencer à 7 h du matin. Parfois, Le soir, ça peut être jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures, parce que suivant ce qu'on a à rendre par rapport au temps qu'on a, ben, qu'il y a des collages, etc. Il faut arriver à gérer ça. Et donc là, je viens de donner on va dire le plus large que j'ai pu faire, de 7 heures à 2 heures du matin. Mais en général, c'est plutôt, allez, on va dire, c'est plutôt 8h30, 9h jusqu'à 17h30, 18h en général.
Quel est votre rythme de travail?
J'ai pas de rythme. Je pense que c'est suivant l'énergie que j'ai, suivant si j'ai fait une grosse journée la veille que je sens sur le corps, parce que le corps aussi est un outil de travail. Si je sens que je suis un petit peu fatigué, voilà, je vais avoir un rythme plus lent, ou alors je vais faire de l'administratif. Je vais gérer comme ça, et c'est vraiment quand même au jour le jour, parce qu'on ne sait jamais. Même si j'ai fait une grosse journée, parfois le lendemain j'ai beaucoup d'énergie, donc au jour le jour.
Quelles sont les exigences attendues pour pratiquer votre métier?
Il y en a pas mal, je pense. Il faut être. Le premier truc qui me vient comme ça, je pense, c'est d'être attentif, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui coupent. Donc, pas perdre un doigt. Je connais des gens qui en ont perdu. Je pense que c'est le premier truc. Être toujours vraiment dans ce qu'on est en train de faire, être concentré. Donc, bah après, il y a tout ce qui va avec, hein, respecter les normes de sécurité, tout ça, pour pas que ça arrive si jamais on a des petits coups de mou. Mais je pense que c'est un des trucs premiers. Deuxième chose, je pense que pour répondre aux besoins des clients, et en plus de les guider vers ce qu'ils veulent, il faut être aussi force de proposition, donc créatif, inventif. Savoir que ce qu'on est capable de faire avec les matériaux qu'on a à notre disposition, et savoir s'imaginer ça. Je pense qu'il faut savoir imaginer les choses en 3D aussi dans sa tête pour rien oublier, déjà percevoir la chose avant de le faire sur logiciel. Donc tout ça, c'est de l'entraînement, hein, ça se fait avec le temps. Ouais, je pense que c'est les choses les plus importantes que j'imagine là. Avoir confiance en soi aussi, parce que le bois, c'est pas une matière, c'est pas comme du. Je sais pas comment on peut dire. Avec le fil du bois, on peut être surpris, et il faut être parfois humble avec la matière, parce que du coup, c'est un échange avec la matière où. Ou des fois, avec le ciseau, la lame, on peut mal partir et avoir à tout recommencer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte.
Avez-vous un outil ou un objet qui vous représente le mieux?
Du coup, j'ai ramené la hache, parce que c'est vraiment un outil que j'affectionne beaucoup. C'est vraiment si on revient dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'après le couteau de silex, c'est la hache qui a été inventé pour couper des choses plus grosses comme des arbres, pour faire certainement de la charpente primitive. Et c'est vraiment un outil avec lequel on peut tout faire lorsqu'on sait bien la manier. Alors aujourd'hui, il existe tout un panel de formes de haches, tout adaptées à ce qu'on a à fabriquer avec. Mais il y a quand même des modèles polyvalents qui permettent de faire beaucoup de choses. Et celles que j'ai ramenées permettent de partir d'un tronc d'arbre en forêt et d'arriver. Dans un premier temps à une poutre, on peut aussi arriver à une planche, et on peut aussi arriver à des meubles. Voilà, il y a des gens qui. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais il y a des gens qui peuvent fabriquer des meubles juste avec une hache. Bon, je vais faire une petite présentation du coup des outils que j'utilise le plus. Alors c'est un petit panel, j'ai pris la caisse avant de partir ce matin, mais dans l'atelier il y en a bien d'autres. J'ai fait exprès de prendre ceux à la main, parce que du coup c'est vraiment ceux qui me font le plus plaisir à utiliser, puisqu'il y a tout le corps en fait qui va suivre certains gestes. Chaque outil a ses gestes particuliers. Et donc cette hache, elle est particulière parce que c'est une hache, c'est une des dernières marques en Europe qui fabrique traditionnellement. Alors c'est pas à la main non plus, c'est au marteau pilon. Mais voilà, ça vient d'Italie. Et donc c'est une hache qui permet plusieurs choses. Au-delà de fendre du bois ou de couper du bois en forêt, elle permet donc d'équarrir à partir d'un tronc d'arbre rond. Je vais y faire des entailles comme ça, donc je me suis debout sur le tronc d'arbre. Je vais laisser tomber la hache comme ça et je vais faire des V. Tous les 30 cm, je vais faire des V. Après, sur le côté, je vais lancer ma hache je vais faire sauter ces morceaux qui s'appellent des claps. Et du coup, après, je vais venir blanchir. Donc, cette hache, elle permet de faire les deux et de très près suivre une ligne que j'aurais fait au cordeau et tout en essayant, avec le niveau, de garder l'aplomb, être bien à 90 degrés avec le sol. Je vais pouvoir venir blanchir ma face et il suffit de le faire 4 fois pour avoir ensuite une poutre. Ça sert surtout à ça. On peut faire des tenons avec aussi, avec la hache. Là, je vous ai ramené, j'ai une petite scie japonaise qui permet énormément de choses. Vous imaginez bien découper. Je peux faire des tenons aussi et je peux me sortir de plein de situations. Je peux ragasser, c'est un terme particulier, parce que quand on a fait 2 morceaux de bois et que quand on les met l'un contre l'autre, il y a encore des jours et que ils ne se touchent pas complètement, on peut passer la lame dedans pour enlever ce qui est de trop et pouvoir le remettre. Mais sinon, voilà, ça sert surtout en découpe. Ça, c'est des outils de mesure. Donc là, on a un mètre ruban de 5 mètres. Et là, on a une jauge de charpentier. Elle est déjà en fait en largeur de mortaise. Elle a une ligne ici et ici qui permet de tracer directement la mortaise quand on a mis son fil sur sa poutre en plein milieu. Voilà. Là, on a encore des outils de mesure, mais qui sont aussi des outils pour vérifier les angles, que ce soit bien à 90 degrés ce qu'on fabrique, lorsqu'on a besoin que ce soit à 90 degrés. Je vous ai ramené, là j'ai une plane. Donc la plane, ça c'est une petite, j'en ai des très grandes aussi qui permettent d'enlever, ben, sur un tronc d'arbre, l'écorce, jusqu'à simplement fabriquer un manche. J'en ai déjà fait, j'en ai pas ramené là, mais on peut aussi fabriquer un manche en maintenant un morceau de bois dans ce qu'on appelle un bandane, un banc à planer. On peut faire des manches avec une plane. J'ai des ciseaux à bois, bien sûr, qui permettent de creuser les mortaises, d'affiner les tenons, de faire plein plein de choses, de chanfreiner parfois. Et là, on a aussi des outils d'affûtage, parce que du coup, tous ces outils sont des outils qui tranchent, qui coupe, et donc c'est de l'acier, donc ça s'émousse, et au bout d'un moment il faut pouvoir réaffûter. Donc on réaffûte une hache avec d'abord une lime, et ensuite on utilise une pierre. Donc là c'est pas la pierre adaptée à la hache. Voilà, chaque outil a ses, d'ailleurs, ses outils d'aiguisage. Les ciseaux à bois sont des pierres rectangulaires et plates sur lesquelles on vient poser comme ça et faire des petits 8. Ça, c'est plutôt quelque chose pour aiguiser la plane, justement. Voilà, il suffit de tourner comme ça, puisque c'est un objet arrondi comme la lame qui est concave. Voilà. Bon, j'ai un niveau pour que tout ce que je fasse soit de niveau lorsque c'est du mobilier. Ça, c'est un maillet pour pouvoir taper sur les ciseaux. Ça, c'est un petit maillet qui permet de faire des trucs plus fins, que j'ai fabriqué il y a plus de 10 ans maintenant. Oui, il n'est pas très abîmé, il a quand même des coups. Mais parce que c'est un bois différent de celui-ci. Celui-ci, c'est du hêtre. Et ça, c'est du buis. Et du coup, je l'ai tourné dans un tour à bois. Et donc, j'ai mon petit maillet, voilà, qui permet de faire des trucs plus fins.
Quel salaire percevez-vous par mois est-il variable?
Elle est complètement variable. Comment? C'est un métier que j'ai fait, que j'ai commencé à faire en 2015. Il y a eu tout un tas de choses différentes de comment ça s'est passé. Mais là, je reprends juste que depuis novembre. Et déjà depuis novembre, eh bien, comment? Il va y avoir des trous dans l'année, je sais déjà. Enfin, le mois de février va être un peu plus calme. Eh bien, c'est ce que j'ai gagné plus avant qui va permettre de combler. En tant qu'auto-entrepreneur, il ne faut plus joué comme ça que par rapport à si j'étais en comment salarié et que tous les mois j'avais quelque chose de fixe. Donc on va dire que je suis autour de 1500 euros. J'arrive à me sortir ça.
Pouvez-vous évoluer dans votre carrière et votre salaire?
Alors je pense que je peux évoluer parce que je vois déjà que avec les années d'expérience, les sollicitations, les types de travail qu'on me demande changent et évoluent aussi. Il y a des choses pour lesquelles avant j'aurais dit non parce que je ne savais pas faire. Et avec l'expérience, plus moi j'ai pas arrêté de me former en fait de mon côté, d'apprendre des choses, quand je rencontre des personnes dont j'aime la manière dont ils travaillent, que ce soit des menuisiers, des charpentiers, on discute beaucoup, ça me permet d'apprendre d'autres choses. Et donc oui, je ne fais qu'évoluer puisque je suis capable de dire oui à de nouveaux, comment, nouvelles demandes. Et j'ai aussi en tête des choses vers lesquelles je veux continuer à aller.
Quel est le niveau d'études exigé pour exercer ce métier?
Alors du coup, j'ai pas de diplôme. Normalement, alors du coup, c'est pour ça que charpentier, quand je le fais, je bosse avec un charpentier, puisque du coup, tout travail de charpente nécessite une décennale sur tout ce qu'on fabrique, puisqu'on a quelque chose au-dessus de la tête et que forcément, il faut des assurances. Donc moi, c'est un diplôme que je dois passer en candidat libre, donc pas en 2024, mais en 2025, parce que j'ai déjà un chantier qui est prévu au moment où j'aurais dû passer le diplôme en 2024, tant pis. Et menuisier aussi, comment il aurait fallu que je passe un diplôme, mais en fait, à chaque fois qu'on m'a demandé quelque chose, j'ai dit oui que je pouvais le faire, et du coup je l'ai fait, et en fait, petit à petit, et aujourd'hui, par rapport peut-être à des moments de l'histoire où c'était plus compliqué d'apprendre les choses, où il fallait absolument passer par l'école, aujourd'hui, via YouTube, via la manière dont on peut réseauter avec des gens qui font les choses qu'on aime, qui est beaucoup plus simple aussi. On apprend vite quand on a envie. Donc voilà, je n'ai qu'un bac L art plastique et après j'ai fait tout un tas de choses et donc j'ai pas les diplômes pour ces pratiques-là.
Comment êtes-vous arrivé au poste que vous occupez?
Par pas mal d'envie, pas mal on va dire par une quête, je vais le dire comme ça, c'est un peu une quête d'authenticité dans le travail qui m'a été transmis par mes grands-parents et mes parents. Il fallait trouver juste mon truc à moi. Et à travers ça, après, beaucoup de réussites, beaucoup d'échecs aussi. Donc je suis passé par donc des petits métiers de toutes sortes, mais qui ont toujours un lien avec le bois. Après ma première entreprise, je travaillais le bois et le métal. Après, j'ai fait plus de l'ossature bois et de l'aménagement parce que j'ai créé une entreprise de fabrication de tiny house. Donc j'ai fait 7 tiny house avant de quitter l'entreprise que j'avais créée pour diverses raisons. Après, je suis allé dans une asso qui s'appelle Les Compagnons du Végétal que j'avais créé avec mon frangin il y a 10 ans bientôt, et j'ai eu là un poste pour fabriquer que des cabanes, puisque il y a eu l'association avait à faire des jardins partagés à Ruelle et à Nersac notamment, et du coup moi j'ai été pris pour faire la fabrication des cabanes, des jardins partagés, et voilà, et suite à ça je me suis remis à mon compte. J'ai gagné en expérience, j'avais des nouveaux outils, et j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait évoluer, et donc voilà comment j'en suis là aujourd'hui, pour résumer.
Comment avez-vous découvert ce métier?
Je l'ai découvert, je ne sais plus trop. Je pense que j'ai découvert ça tardivement, via, je dirais Pinterest, il me semble. Et après, à l'œil aussi, je pense dans les musées aussi, type musée du Quai Branly à Paris, enfin, il y a plein de choses qui marquent au niveau du visuel et qui nous fait dire en nous, oh, j'aimerais trop savoir faire ça. Et après des bouquins, et après Il y a un cadeau à faire pour un anniversaire, je fabrique un premier objet, j'ai des retours qui me donnent confiance pour aller un peu plus loin. Et je pense que comme ça, de fil en aiguille, on en arrive là. Après, il y a un autre élément, enfin, il y a plusieurs éléments très importants, mais il y en a un autre, c'est un documentaire que j'ai vu au niveau de la charpente qui s'appelle Les Passeurs, qui doit aussi pas loin, avoir pas loin de 10 ans maintenant, qui montre, et ce qui m'a vachement choqué, que je parlais tout à l'heure de quête d'authenticité dans la pratique. On était là-dedans, c'est le premier documentaire sur les charpentiers qui refaisaient du travail à la main, comme les anciens. Donc à repartir de ce que je disais, d'une bûche de bois et des carrières ensuite à la hache. Donc c'est autour d'un breton qui s'appelle François Beau, et je me rappelle avoir été très très marqué, l'avoir beaucoup regardé. Et j'ai attendu jusqu'à ce que pour les compagnons du végétal, il y ait un travail à faire à Ronsnak, et que c'était un travail de charpente, et que je me suis dit, ah, bah, c'est l'occasion, et j'ai fait venir un charpentier, et j'ai pu comme ça apprendre. Via ce charpentier que j'ai fait venir, il y a eu tout un stage d'organiser avec d'autres personnes qui ont pu apprendre aussi. Et voilà, c'est des éléments, on va dire, fondateurs et pour la menuiserie et pour la charpente.
Est-ce qu'on vous a aidé à vous développer ou vous êtes développé tout seul?
Les deux, on va dire, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le soutien des amis, de la famille, par rapport au retour de ce qu'on fait. C'est des clients, parmi les premiers clients que j'ai eus, qui sont des gens qui ont aimé ma patte, ma sensibilité de ce que je fabriquais pour eux, et je les remercie pour ça, puisqu'ils m'ont aidé aussi à prendre confiance lorsqu'on n'est pas passé par par le chemin des diplômes. C'est peut-être plus compliqué de prendre confiance aussi parce qu'on a moins l'habitude, on doit tout découvrir par soi-même. Et du coup, ils m'ont offert l'opportunité de fabriquer plein de choses pour eux. Donc, ils sont quelques-uns qui m'ont beaucoup aidé. J'ai beaucoup cherché par moi-même, j'ai passé beaucoup de temps seul. Il y a beaucoup de solitude dans un atelier à se poser des questions. Donc, des fois, ce que je disais, on échange avec d'autres, justement, pour gagner du temps ou quoi. Mais parfois, ce qu'on a à faire, c'est tellement bizarre, particulier, unique, qu'il faut le faire soi-même. Et tout le travail aussi de s'informer, de se former soi-même, c'est beaucoup de temps à passer, à lire, à regarder des choses, etc. Donc voilà, les deux vont ensemble, je pense.
Étiez-vous un bon élève?
Oui, jusqu'à la quatrième, et après un peu moins. Après, oui, enfin, comment dire, j'ai toujours fait le minimum, on va dire. Qu'on attendait de moi, mais sans trop forcer, puisque jusqu'à ce que me crée mon métier, je me sentais jamais à ma place, donc j'allais pas forcer plus je me dis ça aujourd'hui, hein, j'allais pas forcer plus alors qu'au final, j'aurais gagné beaucoup de temps aussi, parce que voilà, j'ai 36 ans, j'aurais peut-être pu gagner 10 bonnes années, mais bon, chacun son parcours.
Êtes-vous heureux dans votre vie professionnelle?
Ben complètement. Complètement. Tous les chantiers que j'ai, c'est que des trucs super. J'ai de la chance, ouais, vraiment. Tous les clients, que des gens gentils et tout. Je suis super content. Ouais.
Avez-vous vécu des moments difficiles dans votre métier?
Alors oui. Il y a des moments difficiles très terre à terre, c'est-à-dire quand il gèle dans l'atelier. On a du mal à bouger ses doigts, c'est plein de petites choses, hein, que le bois est mouillé alors qu'il devrait être sec quand il est livré, etc. Et je dis des moments difficiles parce que lorsqu'on fabrique quelque chose, on a des timings qui sont quand même, on a des plannings. Il y a des gens qui, quand on leur dit quelque chose, qui attendent qu'on les livre à un moment précis, sinon, ben on perd leur confiance, quoi. Et en fait, c'est beaucoup. C'est ce que je vis moi, hein. D'autres menuisiers et charpentiers ont d'autres choses à dire, mais moi c'est beaucoup de petites luttes comme ça, de tout ce qui va venir me faire perdre du temps, et il peut y avoir énormément de choses. Lorsqu'on crée du mobilier par rapport à quelqu'un qui a déjà le client, il a une idée particulière, moi je ne vais pas pouvoir forcément utiliser des techniques de menuiserie traditionnelles pour réaliser son objet. Et donc je suis obligé de penser, mais c'est hyper dur. Il y a toujours un petit truc auquel on n'a pas pensé. et qui vient en fait, qui peut rapidement nous faire perdre une journée, 2 jours, et où il faut tout modifier, faut casser, faut refaire, etc. Alors ça m'arrive de moins en moins avec l'expérience quand même, mais malgré tout, il y a des choses qu'on. Voilà, c'est l'expérience qui fait qu'on est de plus en plus confiant et qu'on fait de moins en moins de petites erreurs comme ça. Mais vu que je ne fais que des choses nouvelles, eh bien, je suis toujours confronté malgré tout à ce genre d'histoire, quoi.
Quelle est votre plus belle reconnaissance?
C'est d'avoir le retour des clients en fait qui sont émerveillés, quoi. Ça se voit dans leurs yeux, c'est sincère. Nous, ça nous regonfle de confiance en nous pour la suite aussi. Forcément, comment, et puis ça crée du coup une énergie qui fait qu'on a à nouveau envie de retourner dans l'atelier. Et ouais, je pense que c'est ça le plus gratifiant, parce que ça fait que nous-mêmes, après, je sais pas dans le sens inverse, moi c'est dans ce sens-là, on est content de nous-mêmes aussi. Et voilà, c'est un espèce de cercle vertueux.
Aujourd'hui, avec toute votre expérience scolaire et professionnelle, quel conseil pourriez-vous nous donner?
Ouais, de croire en ses rêves en fait, hein, vous voyez, malgré le parcours où j'ai pas passé de diplôme, etc., j'ai quand même tenu un fil jusqu'à là, jusqu'à maintenant. J'ai continué à croire que j'allais pouvoir faire de mes mains un métier dans lequel j'allais comment être heureux. Et au début, il y a eu plein de moments où j'y croyais plus, mais en fait, j'ai toujours tenu le truc. Ça m'a toujours motivé, intéressé, passionné. Et donc c'est ça en fait que je me suis rendu compte un peu tard, mais c'est que déjà à travers les études qu'on fait, je dirais parfois dès le collège, on peut déjà suivre des trucs qui nous passionnent, et voilà, suivre ce qui nous passionne, être heureux de faire ce qu'on fait, c'est le plus important.
Merci pour votre témoignage, de nous avoir consacré du temps et d'avoir répondu à nos questions.
Ben, avec plaisir, merci beaucoup.